Chez Auchan, on sait que les meilleures affaires sont celles sur les produits que vous aimez le plus. Et ça tombe bien. Pendant le mois des tops, le kilo de petits prix iodés Origine France est à seulement 2,49€. Vous avez bien entendu. Jusqu'à ce soir, le kilo de moules de bouchot spécialité traditionnelle élevée en France est à seulement 2,49€. C'est ça, le mois des tops Auchan. Auchan, avec plaisir. Moules de bouchot nettoyés prêts à cuire après rinçage élevés en France. Valable dans vos magasins Auchan participants.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on est toujours avec Rémi Barré, Perico Légas, Jérôme Lavrieux et Robert Sebag. Et on va tout de suite démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Marine Le Pen est-elle aux portes de l'Élysée ? En 2012, la fille de Jean-Marie Le Pen était arrivée troisième avec 18% des voix. En 2022, c'était 33,9% au second tour d'élection présidentielle. Elle fait rentrer 89 députés RN à l'Assemblée. Et aujourd'hui, la question de l'avoir à l'Élysée est dans tous les esprits. Et pour cet auditeur dans les GG ce matin, c'est totalement possible pour 2027.
Ah oui, ça peut être son tour. Pourquoi ? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, dans tous les cas, on a tout testé. On a testé la droite, on a testé la gauche, on a testé M. Emmanuel Macron, notre nouveau président, qui nous a promis monts et merveilles. Et maintenant, est-ce qu'il n'est pas en train, justement, de pousser les gens à les écœurer de la politique ? C'est-à-dire, bah, finalement, la politique, c'est tout le monde les mêmes, donc on peut tester un peu n'importe quoi. LFI, si on regarde tout ce qui se passe dans l'hémicycle, bon, bah, on ne voit pas beaucoup de sérieux. Alors que finalement, l'extrême droite, bah, comme vous disiez, hein, ils se sont rachetés une conscience, ils se sont rachetés tout ce qui va avec, et maintenant, ils passent pour être présidentiables.
Marine Le Pen présidente en 2027, c'est possible ou pas, Jérôme Lavrieux ?
Le principe, c'est que tout est possible.
Oui, merci.
Parce que c'est dans les urnes que ça se déroule. Moi, au politologue que je pourrais être, je vous dirais non, je ne le pense pas, parce que nous sommes en France, et compte tenu du mode de scrutin présidentiel. Nous serions dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, avec pour la plupart des pays des scrutins à un tour, où c'est le Premier ministre, c'est-à-dire le chef du parti qui est arrivé en tête au premier tour, parce qu'il n'y a qu'un tour, qui dirige le pays, ce serait déjà le cas. Puisqu'elle est régulièrement en tête des élections au premier tour.
Vous êtes d'accord avec ça, Robert Sebag ?
Ben, quand on regarde l'évolution de ce parti, si vous voulez, Jean-Marie Le Pen, 2002, il est à 88% pour Chirac, il est très très peu, puis ça monte au fur et à mesure, vous l'avez rappelé, 2017, 2022, des représentants. Ça dépendra beaucoup de deux choses. Ça dépendra d'abord qui pourrait succéder à Macron, donc il va y avoir déjà, comme il peut pas se représenter d'ici 2027, est-ce qu'une figure macroniste, entre guillemets, type Édouard Philippe va apparaître. Que va-t-il se passer avec LR, le nouveau président de LR? Donc ça dépendra de la droite. Est-ce qu'il va y avoir un renouveau du Parti Socialiste ou est-ce qu'il va être complètement collé avec la NUPES et la France Insoumise? Donc il y a plein de points d'interrogation. Mais comme l'a dit Jérôme Lavrieux, oui, tout est possible aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas irréaliste. 42% au deuxième tour aujourd'hui, elle était pas loin, si vous voulez. Donc ça dépendra de toute la conjoncture et ce qui va se passer jusqu'en 2027.
Vous croyez pas qu'il va y avoir quand même un renouvellement finalement de nos hommes et nos femmes politiques d'ici la prochaine élection présidentielle, Perico Légas, et ça va donner un nouveau souffle à d'autres partis en fait.
Ailleurs, oui. Donc des gens dont on ne connaît pas l'expérience. Elle a une légitimité du temps. Il semblerait que le plafond de verre politico-psychologique soit pété et cassé. Et qu'aujourd'hui, peut-être grâce à Éric Zemmour qui a montré qu'il y avait une extrême droite...
Elle se casse toujours les dents au débat présidentiel.
Alors, hein, elle ne gagnera pas, ni par son talent, ni par son courage, ni par son travail. Si elle gagne, c'est par la nullité du camp adverse, c'est-à-dire la non-réponse des autres formations de la politique française aux attentes du pays et la configuration politique et économique dans laquelle on se trouvera en 2027... Là, au train où vont les choses, on n'a pas l'impression que les choses vont s'arranger ni sur le plan de l'emploi, ni sur, voyez, et climatique. J'ai écouté l'émission. Il y a un argument, je crois que c'est Consigny qui disait le risque, c'est qu'on se dise, c'était Laurent Marchat, qui disait, on a tout essayé. La social-démocratie, le libéralisme, à gauche, à droite, un jeune. Macron a dit, on balaye le vieux monde, je suis le nouveau monde, en même temps, à gauche, à droite. Ça marche pas. Eh ben, j'allais dire, par dépit, nous allons expérimenter cette formation politique qui est aujourd'hui 90 députés, 89 députés, qui se comportent politiquement. Vous voyez, ils essaient de pas faire une faute.
Très propre.
Donc, ils vont mener cette initiative. Ils se comportent en partie responsables. Ils sont très sérieux. Ils réunissent aujourd'hui toutes les conditions. Alors, est-ce que les Français seront assez nombreux en un deuxième tour? Et ça dépendra de l'abstention, si on continue. Si elle gagne, c'est parce qu'il y aura 45% d'abstention, un ras-le-bol total, l'électorat mais social-démocrate libéral. Ah oui, mais là, on l'a vu. C'est-à-dire que les autres opposants n'iront pas voter, beaucoup d'abstention, en tout cas, les conditions aujourd'hui sont plausibles. Une victoire de Marine Le Pen est politiquement plausible. Je ne dis pas du tout que ça arrivera, c'est plausible. Et si ça continue comme ça, elle a vraiment de bonnes chances de l'emporter.
Non, mais en fait, ils ne disent rien, c'est pour pas dire de conneries. C'est la consigne qui leur a été donnée. Un député ne dit rien. Mais à un moment,
il y a des gens qui ont fait des carrières.
À chaque fois qu'on rentre dans la période présidentielle, ils ont fait des carrières, mais ils n'ont pas été présidents. À chaque fois qu'on rentre dans la carrière, dans la campagne présidentielle, à un moment, il faut dire ce qu'on veut faire. Vous sortez de l'ambiguïté. Et comme le disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a une campagne présidentielle. Et c'est un moment important. Et je ne crois pas que ça en finisse comme ça. Vous savez, les Français, qui sont le peuple le plus passionné de politique qu'on ait jamais vu, ils adorent ça, ils connaissent le moindre sujet politique, politicienne, tout en vomissant la politique matin, midi, soir, ils sont passionnés par la politique. Lorsqu'il y a eu des élections présidentielles en 2017, pas 2022, 2017, ils ont empêché un président sortant de se représenter. Ils ont empêché un ancien président de revenir. Ils ont empêché un, deux, trois anciens premiers ministres d'être candidats ou de gagner l'élection présidentielle. Et pourtant, ils ne sont pas tombés dans les extrêmes. Donc, il y a une intelligence collective de ce gouvernement, des gens. Ça n'empêche pas de râler, de dire, comme on l'a entendu deux auditeurs tout à l'heure, c'est tous des cons, des feignants, des voleurs, de tout ce que vous voulez. Mais à un moment, il faut diriger le pays. Et à un moment, il y a toujours... Voilà. Mais tout peut arriver quand même. Et c'est parce qu'on pense que tout ne peut pas arriver qu'on baisse la garde. Et moi, je pars du principe qu'il faut le faire. Et on aura un autre sujet, c'est que va devenir LFI et l'ANUPS, qui est l'espèce de pendant de l'autre extrême, qui est dans un état de décomposition morale qui avance chaque jour un petit peu plus.
Et Mélenchon ne se présentera pas, en plus. C'est ce qu'il a laissé entendre, quand même.
Oui, jour et le lendemain, il était plus ambigu. Oui. Marine Le Pen avait dit qu'elle ne se représenterait pas, que c'était son dernier tour. Oui. Elle est plus ambiguë maintenant.
Sauf ils n'ont pas le même âge.
S'il a que des gens confrontés à des problèmes de mœurs autour de lui, lui qui est irréprochable, il serait bien obligé d'y aller.
La possibilité, oui, elle existe. Mais avant une élection, il y a une campagne électorale.
Oui, oui.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est la nullité, si vous voulez, au niveau de la politique internationale. La conférence de presse de Marine Le Pen qu'elle avait faite avant la campagne sur la politique étrangère, c'était à frémir. Il n'y avait aucune pensée, il n'y a pas d'histoire, il n'y a aucun recul par rapport à ça. Et donc, ça serait des alliances par rapport à la
Il n'est pas forcément dit que ça soit elle non plus, ça peut être Bardella. Non. Et là, je peux vous dire que ça change tout. Et n'oublions pas la nièce.
Il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a fait que de la politique depuis qu'il est jeune. Quelle est la réalité qu'il a de la France? Voilà, on peut se poser un certain nombre de questions, mais avant une élection, il y a une campagne. Et la campagne peut tout changer.
Oui. Deuxième extrait dans ce zapping, la matinale week-end hier. Faut-il créer des structures d'accueil réservées aux agresseurs? Depuis le mouvement MeToo, la parole s'est libérée. Plusieurs mesures ont été prises pour prendre en charge les femmes, mais rien n'est fait pour les agresseurs. La comédienne Alexandra Lamy était dans la matinale week-end sur RMC hier pour parler de son nouveau film Touché sur TF1 consacré aux violences faites aux femmes, et elle plaide pour une prise en charge des agresseurs. Écoutez.
Moi, il y a toujours un truc que j'ai trouvé toujours bizarre, c'est-à-dire je me dis, c'est marrant, pourquoi dans une maison où il y a un agresseur, on retire la victime et les enfants? Pourquoi on ne retire pas déjà l'agresseur? Il faut s'occuper aussi de l'agresseur, parce que souvent l'agresseur, d'ailleurs, à 75%, il a été lui-même agressé. Mmh. Et de faire aussi des maisons, parce que le problème qu'il y a, c'est que pourquoi on n'arrive pas à enlever les agresseurs? C'est qu'on ne sait pas où les mettre, puisqu'il n'y a pas d'association qui s'occupe pour ça. Il y a très peu qui s'occupent des agresseurs. Alors que si on avait peut-être un endroit, alors évidemment, c'est compliqué à faire, mais où on peut travailler avec ces gens-là, qu'on puisse les retirer, qu'on puisse laisser la femme chez elle avec ses enfants, le temps de se reconstruire, le temps de retrouver du travail, que tout, et peut-être de faire un travail aussi avec l'homme qui a été lui-même et agressé et qui est lui-même agresseur.
Robert Sebag, faut faire des choses pour les agresseurs. C'est vrai qu'on n'entend pas trop ce discours, hein, mais
ça dépend quel type d'agresseur et quel type d'agression. Donc Monsieur Quatennens, on va le mettre dans une maison particulière. Puisqu'on en revient à notre premier débat. Mais aujourd'hui, si vous voulez, en cas de viol ou en cas de féminicide, alors beaucoup plus grave, il y a ce qu'on appelle des prisons. Aujourd'hui, ils sont condamnés à la prison. Donc, c'est déjà. Alors après, il faut voir en fonction du niveau de l'agression, bien que toute agression contre des femmes est répréhensible. On va faire quoi? On a déjà des problèmes d'hébergement sur les personnes qui ne peuvent pas être expulsées du territoire. Où il n'y a pas assez de place. Donc, c'est quoi? D'un côté, vous avez la prison, et de l'autre côté, c'est quoi? C'est les travaux d'intérêt général. Donc, qu'est-ce
parce
qu'elle entend?
Est-ce que voilà. C'est parce que tu vas repeindre la mairie que tu recommenceras plus? Ça m'étonnerait. Hein.
D'accord, mais c'est quoi alors? C'est l'alternative à la prison. Donc, c'est quoi? C'est un centre particulier où on va leur refaire une obligation de
soins psychologiques. Ça paraît.
Alors, obligation de soins psychologiques, oui. Aller pointer régulièrement au commissariat s'il y a un suivi judiciaire, un contrôle judiciaire, ce genre de choses. Mais maison particulière. Agresseurs, oui, il y en a beaucoup, mais quel type d'agression et quel type d'agresseur?
Bah, au moins les mettre au vert, entre guillemets, et faire qu'ils ne frappent plus, ça paraît.
Mais ça,
c'est une décision de justice.
De justice, oui.
Qui arrive à la fin d'un long processus.
C'est des alternatives à la prison.
Ce que dit la personne qu'on a entendu, il existe des associations qui le font. On peut aussi être condamné à un stage de parentalité qui se font, qui prennent plusieurs jours, recadre, etc. Bah, c'est la justice qui décide de vous condamner à un stage de parentalité. On vous explique, on vous redonne les bases. Il y a des psychologues qui sont là. Et qui vous disent, voilà, ça vous ne pouvez pas, ça on ne peut pas, voilà comment il faut se procéder, etc. Mais oui, parce qu'il faut reprendre les choses à la base chez certaines personnes. Donc ça existe.
On dit, taper votre femme, c'est pas bien. Les gens ne le savent pas, vous voyez.
Il y en a pour qui ça a été leur quotidien de voir leurs parents se taper dessus. Et ils ne savent pas qu'on ne peut pas le faire. Ça existe dans beaucoup. C'est ce qu'on appelle la reproduction, en fait. Ouais. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que, je suis désolé, mais quand on est le pays de l'Union européenne, où on doit être avant ou avant-dernier sur la part du budget consacré à la justice, parce que la justice, ce n'est pas juste des magistrats avec des longues robes rouges qui tapent du marteau pour vous condamner après un procès. C'est aussi tout ce qui va autour, et la prise en charge, la prise en soins, de soins, etc., la lutte contre la récidive. Il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas terrible.
Perico, les gars, c'est une bonne idée, ça?
Je crois que la pédagogie ne peut s'appliquer que dans des cas très précis de personnes qui ont une défaillance légère et provisoire, et que malgré tout... Non, ça c'est un discours humano-opportuniste, bien pensant, qui dit qu'il y a toujours une rémission possible. Voilà, s'il y a eu faute, et s'il y a eu faute de comportement, il faut quand même passer... le drame, c'est quoi? C'est que la prison, elle est destructrice. Voilà, la prison doit être constructrice. Donc, c'est toute la politique pénitentiaire qu'il faut être pensée, et le suivi, alors le bracelet, tout ça, mais on voit bien aujourd'hui que ça marche pas. Mais la solution, elle est que là, elle est pas dans les centres d'accueil
La lutte contre l'alcoolisme, parce que très souvent,
évidemment.
La raison de la violence dans le couple, c'est souvent l'alcoolisme.
Et la drogue.
La drogue aussi.
Troisième extrait dans ce zapping, Apolline Matin. Ce matin, Paul Pogba est-il la partie émergée de l'iceberg? Le joueur est au cœur d'une affaire de tentative d'extorsion. Ce week-end, son frère Mathias et trois de ses amis proches ont été mis en examen et incarcérés. Et pour Jean-Philippe Asensi, président de l'Agence pour l'éducation par le sport, il y a des milliers d'autres jeunes champions menacés par leurs anciens amis d'enfance. C'était ce matin dans la matinale d'Apolline.
Il faut accompagner rapidement, et dans les prochaines semaines, il faut des mesures très très fortes pour accompagner ces grands champions.
Il n'y a pas d'autres Paul Pogba.
Mais il y en a plein d'autres, madame. Il y en a plein d'autres, personne ne le sait. Il y en a plein d'autres qui sont des jeunes champions et qui se retournent vers leur famille, leurs anciens amis. C'est l'Eldorado, Paul Pogba, qui gagne des millions, c'est l'Eldorado.
Voilà, et sachez que jeudi, l'invité d'Apolline de Malherbe dans Apolline Matin, ce sera Elisabeth Borne, la première ministre. Qu'est-ce qu'on fait justement? Alors là, on voit que le foot français, c'est une catastrophe. Entre la Fédération française, Paul Pogba, l'affaire...
Benzema, auparavant...
L'affaire surtout de la joueuse du Paris Saint-Germain, qui a quand même été attaquée à coups de barre de fer. On voit bien qu'il y a un problème avec les amis d'enfance. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces joueurs, Jérôme Lavrie?
J'ai l'impression de... Les reportages qu'on voit le samedi après-midi dans les grandes chaînes nationales, où on fait un reportage sur quelqu'un qui vient de gagner au loto et dont la vie est bouleversée du jour au lendemain, qui découvre qu'il avait plein d'amis qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, qui viennent lui demander de l'argent. Un gamin, je suis désolé de le dire, qui n'a fait que du foot et qui du jour au lendemain gagne au loto, ça doit attirer beaucoup de choses. Il faut être charpenté sa famille et ses vrais amis pour faire ça. Et là, c'est son frère qui fait ça. Ouais. Mais en fait, ils font quoi? Ils se comportent comme vis-à-vis du voisin qui a gagné au loto. Et ils sont prêts à tout pour le faire. C'est juste hallucinant. Ils ne se rendent pas compte qu'en plus, ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or.
Après, il y a aussi beaucoup de parents qui poussent aussi les enfants à faire du foot parce qu'ils savent que ce sera le gagne-pain de la famille, malheureusement.
Mais quand vous avez un gamin qui est mineur, qui fait du cinéma, qui gagne des millions, quand il est gamin...
C'est moins fréquent.
Non,
l'argent est gardé.
L'argent, il est gardé. Il peut pas gagner. Les parents peuvent pas le dépenser non plus.
Oui, mais jusqu'à 18 ans. Mais là,
et quand vous gagnez des grosses sommes au loto, vous pouvez être pris en charge. Ils le mettent à votre disposition pour vous apprendre comment on s'en sert.
Si on a créé des joueurs qui veulent pas revenir en France, notamment avant au PSG, parce qu'ils ont la famille en région parisienne et qu'ils savent très bien que ça va être compliqué.
Quand on a créé ce genre de choses, le métier d'agent, le métier d'avocat, on parle. Moi, je n'y connais strictement rien au foot. Je suis désolé. Faut pas m'en vouloir, mais le contre-exemple qu'on nous sort à chaque fois, c'est Mbappé, où on dit mais la famille est solide, il est accompagné pas forcément d'agents mais d'avocats qui regardent tout, etc., et qui prennent les décisions, qui l'aident et qui l'accompagnent. Mais après, chacun est libre de claquer son fric.
Il a peut-être pas eu les mêmes amis d'enfance non plus. Ouais. Voilà, c'est ça aussi. Et le problème, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, hein, les joueurs de foot sont devenus des proies.
Peut-être que ça s'apprend d'être riche. Le jour où je le saurai, je viendrai vous le raconter.
Mais dans les centres de formation français, en tout cas, aujourd'hui, on apprend quand même. Enfin, il y a des cours. On explique quand même aux gamins comment pas se faire avoir, etc. Mais c'est compliqué quand effectivement vous avez 16 ans, que vous gagnez des sommes que jamais vos parents ne gagneront dans une vie. Vous êtes une proie.
Il faut être très solide pour résister à cette pression.
Très bien entouré. Ouais. Et malheureusement, c'est compliqué à 16 ans de choisir parfois son entourage et même ses conseillers financiers. Enfin, c'est quand même sordide ce qui se passe.
On va peut-être penser les rétributions, peut-être un jour, non ?
Ça n'a rien à voir, parce que de toute façon, tu peux le faire en France, mais comme Paul Pogba, il joue pas en France, il joue à l'étranger.
Au niveau international, on peut pas s'entendre sur le fait qu'il y a des seuils financiers à franchir.
Non, parce que tu penses bien que quand un club te donne 300 000 euros par mois, c'est parce qu'il gagne plus. Les gens sont pas bêtes.
Et l'échelle rétribue parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs.
Non, mais on peut pas avoir une fiscalité qui régule.
Il y a beaucoup d'auditeurs.
On laisse le marché faire ce qu'il veut.
Mais on n'arrive déjà pas à s'accorder sur les prix du tabac en Europe.
Il y en a qui gagnent 100 millions, mais même celui qui gagnerait que 1 million, c'est toujours énorme pour plein d'autres personnes qui gravitent autour.
Mais ils sont originaires de banlieues extrêmement pauvres. Ils avaient des copains, ils jouaient au ballon dans la cour de leur immeuble, tout d'un coup il y en a un qui sort du lot, ils ont dit mon copain t'as pas oublié tout ce qu'on a fait ensemble.
On doit quelque chose.
Il y a un problème d'emprise après d'entourage. C'est inévitable, mais c'est un problème d'éducation.
Je suis dans la difficulté, dans la galère, toi tu peux.
Non, pas me laisser tomber, rappelle-toi quand on jouait ensemble, on faisait des petits coups.
Voilà, et le joueur te dit souvent je sais d'où je viens, j'ai jamais oublié d'où je viens, et c'est une fierté de dire je sais d'où je viens, je reviens effectivement voir mes potes, etc., et pour pas être celui qui ne sait plus d'où il vient justement. Bon.